am Witte vom Dach.
Da das haut der französische Ökonomist Timothée Parik, den der für Leute für sein Fach nach überraschend These vertritt, dass immer mehr Wüstem der falsche wär's, dass man den Konträr brauche, nämlich Décroissance. Und zwar aus ökologischen Gründen, weil die Klimakrise so wohl nicht mit zu evitieren ist. Denn Timothée Parik war der letzte Freitag auf Invitation vom Nachhaltigkeitsrat zu Lützeburg. Ich habe bei der Gelegenheit die Möglichkeit, mit ihm zu schwätzen. Und die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war die, wie die Décroissance da mist organisiert gehen, weil Lützeburg sich ihren, was nicht ganz wahrscheinlich ist, für das Konzept von der Décroissance gif décidieren.
Déjà, je pense que oui, le gouvernement devrait décider déjà de ne plus faire des politiques de croissance et de faire à la place une politique de décroissance. Après, sur comment l'organiser, il faudrait commencer par faire un inventaire de la biocapacité, donc c'est-à-dire des ressources naturelles disponibles, un inventaire de l'empreinte, c'est-à-dire des ressources que l'on consomme au Luxembourg, pour estimer déjà un petit peu l'ampleur du régime. Est-ce qu'on doit décroître d'un peu, de beaucoup, d'énormément? Est-ce qu'on peut décroître pendant quelques années? Est-ce que ça va prendre une décennie? Donc ça, déjà, il faut estimer la taille de la décroissance. Un petit peu comme on fait un régime. Est-ce que je dois perdre 5 kilos, 10 kilos, 50 kilos? Et ensuite, il faut identifier, en fait, et c'est ça qui est compliqué, se dire par quoi est-ce qu'on va commencer? Et c'est en se disant par quoi est-ce qu'on va commencer qu'ensuite on va pouvoir déduire qui va faire quoi. Si on se dit, ah bah tiens, une façon de réduire l'empreinte écologique du Luxembourg, c'est de moins utiliser la voiture, on va dire par hasard. Bon, bah là, ça voulait dire que les gens qui utilisent la voiture, donc les ménages, bien sûr, ils vont participer, mais aussi les constructeurs automobiles. Donc là, ça va avoir des répercussions. Par exemple, on va arrêter de faire de la publicité pour certains types de voitures, notamment la SUV, parce qu'on sait que ça alourdit l'empreinte écologique. Donc, on va aussi essayer de faire une redirection industrielle des constructeurs automobiles, pour fermer des lignes de production, notamment sur des voitures très lourdes, sur des voitures thermiques, et privilégier des voitures très légères, des voitures électriques. Donc là, il y a un aspect de redirection, et on fera peut-être aussi des politiques d'accompagnement, notamment économique, de subvention aux ménages, pour permettre d'exnover, donc de faire sortir des vieilles voitures thermiques, pour faire rentrer des petites voitures électriques, ou même pour transitionner à des modes de mobilité sans voiture. Avec, bon, j'imagine que tout le monde connaît ici la gratuité des transports en commun, qui est en place au Luxembourg, mais qui n'est pas en place dans d'autres pays. On voit que ça, c'est des politiques publiques, en fait, qui accompagnent des changements de comportement à l'échelle des entreprises et des ménages.
Dans un monde idéal, tous les acteurs de la vie économique adhéreraient à un tel concept. Mais pourquoi une entreprise commerciale à but lucratif, forcément, freinerait-elle d'elle-même son activité? Pourquoi un consommateur consommerait-il moins s'il a les moyens de consommer?
Bah, les consommateurs le font déjà, hein. On pourrait, si on voulait s'acheter, allez, on va dire, pas une voiture, mais on pourrait en avoir deux, trois ou quatre. Il suffirait de prendre un deuxième emploi, peut-être un troisième, peut-être un quatrième. On pourrait travailler peut-être 90, 100 heures par semaine. On pourrait, théoriquement, mais on ne le fait pas. C'est bizarre. On se dit quand même, bon, peut-être travailler 40 heures par semaine, ça suffit parce que j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. J'ai envie de pouvoir faire de la musique, passer du temps avec mes amis parce que la vie, c'est pas que le travail. Donc, j'accepte déjà le fait de ne pas pouvoir tout tâcher tout le temps. Donc déjà, il y a un sens de la mesure. Donc passer de ce sens de la mesure à se dire « Ah bah tiens, maintenant il faut que je prenne en compte non seulement les limites financières de mon budget, mais aussi des limites écologiques. » Ce qui veut dire que, par exemple, même si j'ai assez d'argent pour pouvoir faire des allers-retours en avion tous les week-ends, bah en fait, j'ai pas le budget carbone pour le faire. Donc là, de la même manière, on va décider de faire des arbitrages et de moins faire. La compagnie aérienne, qui elle est une société commerciale à but lucratif, c'est vrai, elle n'aura aucun intérêt à vendre moins de billets d'avion. Et donc là, de la même manière que les fabricants de tabac n'avaient aucun intérêt à vendre moins de cigarettes à l'époque où les gouvernements ont décidé d'interdire la publicité pour les cigarettes. Donc elles ont résisté, mais elles ont perdu. Donc là, c'est pareil, je pense qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, notamment dans les énergies fossiles, qui résistent à grands coups de lobbying, mais au bout d'un moment, qui vont perdre face en fait à des transformations qui bénéficient tellement l'intérêt général comparé aux bénéfices déversés aux actionnaires des entreprises fossiles qui sont déjà les ménages les plus aisés. Donc c'est quelque chose d'ailleurs qui n'améliore même plus la qualité de vie, ça vient juste élargir les inégalités et donc dégrader la qualité de vie moyenne. Donc là on voit qu'il y a clairement un conflit d'intérêts et c'est la responsabilité des pouvoirs publics poussé d'ailleurs par les associations et des collectivités de citoyennes et de citoyens qui se mobilisent à prendre ces décisions pour forcer les entreprises à ne pas faire ces choses en fait qui viendraient dégrader la capacité d'un pays à satisfaire ses besoins.
Si le concept fonctionne, et prenons l'exemple de la compagnie aérienne, que les gens prennent moins l'avion, la compagnie va offrir moins de vols, elle aura des pilotes en trop, des stewardesses en trop, qu'elle devra licencier. Qu'arrivera-t-il à ces personnes-là qui risquent de perdre leur emploi ?
Alors, il y a deux façons de voir cette chose-là. La première façon, c'est la façon un petit peu classique, on va se dire, c'est un désastre. Ces personnes vont perdre leur emploi, vont perdre leur pouvoir d'achat, ne pourront peut-être plus se loger, se nourrir, se déplacer, vont peut-être perdre même un sens de l'utilité sociale. Mais il y a une autre façon, un autre récit de la transition. Déjà, on devrait commencer par dire qu'on peut organiser. Déjà, cette personne n'a pas besoin de perdre son emploi si on organise une réduction du temps de travail généralisé dans les secteurs en déclin. Donc cette personne passera à temps partiel. Et vu que la plupart des personnes aujourd'hui quand même ont l'impression de trop travailler, je pense que cette personne sera très contente de passer à 60% pour se permettre de faire beaucoup d'autres choses en dehors du travail. Donc déjà, il y a des manières d'éviter ce licenciement. Ensuite, même si quelqu'un venait à se faire licencier, la perte d'un emploi est tragique quand elle se fait avec une perte du pouvoir d'achat. Mais là, on voit aussi que ça peut s'organiser. Donc si on habite en plein Paris et que pour se loger, il faut vraiment un salaire mirobolant, on se fait licencier par sa banque, parce que sa banque a fait une banqueroute, et on perd accès à son logement. Mais si on habite à Vienne, par exemple, ou Vienne, il n'y a pas de logement à but lucratif, c'est que des logements sociaux ou des coopératives d'habitat à lucrativité limitée. Donc les loyers à Vienne, la dernière fois que j'ai regardé, étaient moitié moins chers qu'à Paris, avec une meilleure qualité d'ailleurs du bâti. Et bien là, c'est moins grave déjà. On peut se permettre, par exemple, d'avoir un plus petit salaire, tout en maintenant la même qualité de vie. C'est plus facile de faire ça à Vienne qu'à Paris. Pourquoi ? Parce que l'organisation du logement est différente. Donc là, on peut déjà se poser la question de si on réorganisait certains secteurs, on pourrait se permettre de se donner l'agilité de faire des grands changements qui risquent de bousculer. Mais on peut se permettre de risquer de bousculer parce que si on a des filets de sécurité. Moi, vous savez, je fais beaucoup d'escalade. Et quand on fait de l'escalade, on peut se permettre de faire des mouvements très difficiles parce qu'on sait qu'il y a la corde et qu'on sait qu'il y a des amis qui vous tiennent derrière. Et là, c'est pareil. Dans une société, par exemple la société américaine, où si on fait quoi que ce soit, on perd son emploi, on perd sa maison, on ne peut pas changer, on n'a pas d'agilité, on ne peut pas innover. Alors qu'une société où on a des protections, où on sait que si l'entreprise, elle va se lancer peut-être dans un nouveau bien écologique ou dans une association qui va se lancer vraiment dans de la sensibilisation, elle ne va pas être sûre de pouvoir vraiment rentrer dans ses finances, mais elle sait qu'il y a des protections, justement, pour des entreprises et des associations qui font de la transition écologique. Là, en fait, ça nous libère, ça nous permet d'être beaucoup plus agiles. Donc, pour moi, c'est pas une question de oui ou non, est-ce qu'on peut se permettre de le faire. C'est oui, on doit le faire. Et après, comment est-ce qu'on se donne les moyens pour que ça puisse être possible?
On doit le faire pour éviter la crise climatique. Est-ce que si on arrivait à verdir la croissance, ça n'arriverait pas au même?
Alors, si on arrivait à verdir la croissance, le problème serait beaucoup plus facile à résoudre. En effet, on aurait d'autres problèmes liés à la pauvreté, aux inégalités, liés aussi à la qualité des choses que l'on produit. Mais au moins, on n'aurait pas le problème de la crise écologique. On n'aurait pas forcément besoin de parler décroissance. Et moi, j'adorerais. Si c'était le cas, j'adorerais. Mon travail serait beaucoup plus facile. Malheureusement, on réalise en fait depuis le début des années 90, c'est le départ un petit peu des études sur la croissance verte. Et maintenant, il y a vraiment plus d'un millier d'études empiriques sur le sujet, qu'aucun pays riche n'a réussi à découpler la croissance économique de son empreinte écologique totale. On a des découplages partiels. Donc certains pays, une poignée au monde, ont par exemple, sur certaines périodes, réussi à baisser leur gaz à effet de serre. Trop bien. Mais ils n'ont jamais réussi à baisser leur empreinte matière, donc la quantité totale de minerais, de métaux, d'énergie fossile et de biomasse que leur économie utilise. Et même pour les pays qui ont réussi à baisser les gaz à effet de serre, par exemple, mais en fait, cette baisse, elle est insuffisante pour faire face à la crise climatique. Donc aujourd'hui, si on parle de décroissance, c'est après des décennies d'expérience d'avoir essayé de verdir les économies des pays à haut revenu et de se rendre compte que nous n'avons pas réussi.
Et comment garantir le financement des systèmes de sécurité sociale qui sont actuellement construits justement sur une condition de croissance ?
Alors là, ça a fait partie d'un des chantiers à réorganiser. Déjà, il faut se rendre compte que tous les systèmes sociaux n'ont pas la même dépendance à la croissance. Un système de santé privé, comme aux États-Unis, va nécessiter beaucoup plus d'argent pour fonctionner qu'un système français. Donc, c'est-à-dire que quand on prend, si on prend le PIB de la santé aux États-Unis, c'est énorme comparé au PIB de la santé en France. Pourtant, les indicateurs de santé sont meilleurs en France qu'aux États-Unis. Donc, on voit que c'est pas forcément une bonne chose. Pareil pour les systèmes de retraite. Système de retraite privé, où vous allez investir votre argent, peut-être dans des activités économiques, dans des fonds de pension qui vont les investir dans des entreprises, avec un retour sur investissement pour pouvoir payer votre retraite plus tard. Et ben là, c'est vous êtes beaucoup plus dépendant, fragile, on va dire, par rapport à un système de retraite par réciprocité, où votre retraite, en fait, sera garantie en live par le travail de quelqu'un d'autre à partir du moment où vous partirez en retraite. Donc là, il faut se poser la question de se dire transition écologique, ça va vouloir dire changement structurel. Changement structurel, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des systèmes résilients. Protéger les systèmes, on sait que quoi qu'il se passe, il va nous falloir des systèmes de santé, des systèmes de retraite. Ça, ça bougera pas. Nos systèmes de retraite et nos systèmes de santé, ils ont été construits pendant une période de croissance dans une économie où l'on pensait qu'elle allait toujours croître. Aujourd'hui, on se rend compte que non seulement la croissance ralentit, c'est la stagnation séculaire, donc rien que ça suffirait en fait à parler d'une réforme de ces systèmes, mais que non seulement nous n'arrivons plus à croître, mais nous ne pouvons plus croître davantage pour des raisons écologiques, ou même nous devons organiser une certaine décroissance. Donc là, ça nous met un petit peu face à un chantier qui n'est pas insurmontable, mais qui va demander des réformes structurelles.
Dernière question, est-ce que le concept de la décroissance a déjà été testé quelque part dans la réalité ?
Alors c'est un concept assez récent. Le terme date de 2002, la littérature scientifique, elle se développe à partir de 2007. Et il n'y a vraiment aucun pays qui a annoncé faire des politiques de décroissance. Bon, ce qui aurait été un peu surprenant, parce que ça reste un concept très universitaire. Donc peu de personnes le connaissent. Alors bien sûr, ça s'est beaucoup popularisé ces dernières années, mais ça n'a pas la popularité de l'économie circulaire ou de la croissance verte ou du développement durable. Le développement durable, c'était quand même les années 80. Mais peut-être que le terme décroissance n'est pas le plus adapté pour faire des politiques publiques. Parce que dans notre imaginaire actuel, quand on entend décroissance, les gens ont tendance à être effrayés. Donc si on appelle ça une politique de sobriété macroéconomique, par exemple, ou un régime biophysique, ou je ne sais pas quel concept on pourra inventer, c'est peut-être mieux. Ce qui est important, moi, ce qui m'importe en tant que macroéconomiste écologique, c'est qu'à la fin de la transition, on ait une économie qui puisse tenir dans les limites de la biosphère. Si on arrive à faire ça, on peut l'appeler comme on veut, ça ne me dérange pas.